franceinter.fr.
Voilà du sang et rien d'autre, l'éthique et leur alimentation aujourd'hui à la une de la science avec une équipe française qui démontre cette semaine comment une bactérie a permis aux tiques de devenir ce qu'on appelle des hématophages stricts. C'est une symbiose entre les microbes et l'insecte qui a permis donc à ce dernier de sucer le sang de ses victimes depuis plusieurs millions d'années. Et on en discute avec les deux auteurs de cette publication parue dans la revue Current Biology, Axel.
Oui Mathieu, nous sommes en duplex avec les locaux de France Bleu Hérault pour accueillir Laurence Vial et Olivier Duron. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à vous.
Laurence Vial, vous êtes vétérinaire et chercheuse au CIRAD. Et Olivier Duron, vous êtes biologiste et évolutionniste. Vous travaillez pour le CNRS. Laurence Vial, c'est vous en fait qui avez permis cette étude, car elle a été menée sur les tiques que vous élevez à Montpellier. Est-ce que c'est compliqué d'élever des tiques?
Alors, ça dépend desquelles, mais c'est vrai que voilà, une tique, c'est pas un moustique. Et son cycle de vie est très long. De plusieurs mois. Mmh. Donc, c'est un travail de longue haleine pour élever des tiques.
Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup en France.
On n'est pas beaucoup à avoir de ces infrastructures.
Olivier Duron, quelle était votre idée quand vous avez proposé à Laurence Vial de vous prêter ces tiques?
J'ai été voir Laurence parce que je m'intéresse essentiellement aux micro-organismes qui sont présents chez les tiques. Et on s'est très rapidement rendu compte dans notre équipe que beaucoup de tiques, voire quasiment toutes les tiques, hébergeaient des bactéries bien particulières qu'on a retrouvées chez tous les individus de ces tiques-là. C'était pas des bactéries pathogènes et on s'est posé les questions de savoir quelle était la nature des interactions avec ces tiques et pourquoi toutes les tiques avaient apparemment ces bactéries-là.
Vous aviez forcément une idée derrière la tête avant d'aller voir Laurence, j'imagine.
J'avais une idée derrière la tête, bien sûr, parce que les tiques sont des hématophages stricts, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de sang dès leur naissance. C'est la nourriture exclusive des individus durant toute leur vie. Et c'est une alimentation qui est riche en lipides, en protéines, en sucre, mais qui est pauvre en certaines vitamines, dont notamment les vitamines B. Et du coup, on a émis l'hypothèse que ces bactéries-là pouvaient justement fournir un supplément de vitamine B à leur hôte.
Alors oui, quel est précisément le rôle de la bactérie vis-à-vis du sang qui est ingéré par la tique?
Alors voilà, ce sang donc contient de la vitamine B, on en a dans notre sang, mais c'est pas en quantité suffisante pour permettre à la tique de se développer. Et en fait, ces bactéries ont la capacité, dans leur génome, elles ont des voies de biosynthèse de différents types de vitamine B, comme de la biotine, de la riboflavine ou de l'acide folique, qu'elles sont capables de synthétiser et qu'elles vont donner à leur...
Ah, on a une voilà. Petite coupure avec notre duplex. Est-ce qu'on entend Laurence Vial et Olivier Duron? Allô, allô, est-ce que nous sommes toujours... Oui, on vous entend apparemment, vous êtes revenus.
Oui, vous nous entendez.
Voilà, vous pouvez poursuivre. Voilà.
Vous étiez en train de nous expliquer donc, comment la bactérie permettait à la tique d'avoir de la vitamine B.
Voilà, donc cette bactérie a la capacité de synthétiser cette vitamine B, qu'elle a synthétisée en quantité assez importante pour la tique. Et en fait, quand on prive la tique de cet apport de vitamine B avec d'origine bactérienne, et ben les tiques ne parviennent plus à se développer. On n'arrive plus à avoir de tiques adultes. En fait, les tiques arrêtent très tôt de se développer. Et du coup, on n'a plus de reproduction et la population s'éteint très rapidement.
Laurence Vial, que fait une tique dans la nature quand elle ne trouve pas de sang?
Alors... quand elle ne trouve pas de sang, alors là aussi, ça dépend un peu des espèces. Quand la saison n'est pas favorable, eh bien, elle peut se mettre en diapause. C'est-à-dire que, en fait, elle se met un peu au ralenti. Son métabolisme se met au ralenti et elle attend qu'un hôte arrive et passe. Et nos tiques qu'on a chez nous au CIRAD sont des tiques molles qui, elles, ont vraiment une biologie très, très particulière parce qu'elles arrivent à rester à jeun pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Plusieurs années?
Donc vous avez des tiques molles et des tiques dures d'un côté et des tiques molles de l'autre, c'est ça?
Ah oui, alors les tiques dures, ce sont des tiques qu'on connaît généralement, qu'on voit sur nos chiens, qui ont un scutum, c'est-à-dire une carapace dure. Et puis, il existe des tiques molles qui, elles, vivent plutôt dans des terriers ou sinon dans des anfractuosités de maison et qui, elles, sont uniquement constituées d'une peau molle, qui peuvent aussi transmettre des maladies.
Olivier Durand, vous, ce qui vous a intéressé dans cette étude, c'est ce qu'on appelle la coévolution, c'est l'histoire de cette symbiose entre la tique et la bactérie. Comment ça s'est passé dans l'histoire de la tique, l'acquisition de cette bactérie ?
Alors, on ne sait pas exactement ce qui est à l'origine de l'acquisition de cette bactérie. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 900 espèces de tiques. Alors, on n'a pas pu toutes les regarder, mais toutes les espèces de tiques qu'on a regardées, aujourd'hui, on en a regardé plus de 150 dans notre laboratoire, et on a retrouvé dans pratiquement toutes des bactéries symbiotiques du même type que celles qu'on vient de décrire. Et ça suggère que, du coup, cette association est extrêmement ancienne. Dans certains cas, on a pu dater ces interactions. Et nos estimations sont à minima de 14 millions d'années. Donc on est vraiment sur des interactions extrêmement longues et extrêmement fidèles. C'est-à-dire que la tique et son symbiote peuvent rester associés sur des périodes évolutives extrêmement longues.
Est-ce que c'est comme nous avec nos bactéries intestinales, la bactérie est dans le tube digestif de la tique ?
Alors, non.
Ah bon ?
Là, c'est une interaction qui est beaucoup plus poussée, puisque ici, la bactérie est une intracellulaire, c'est-à-dire qu'elle vit vraiment à l'intérieur des cellules de son hôte. Et son mode de transmission est très particulier, puisqu'elle est transmise de mère à descendant, via un mode de transmission qu'on appelle un transovarien. C'est-à-dire que l'œuf, dès l'origine, en fait, dès sa conception, contient déjà les bactéries symbiotiques à l'intérieur, qui vont se développer. C'est-à-dire que l'individu naît avec ses bactéries symbiotiques, et les femelles vont les transmettre elles-mêmes directement à leur descendance.
Laurence Vial, une dernière question. Est-ce que cette étude va nous aider à mieux comprendre pourquoi les tiques sont porteuses de tant de bactéries et tant de maladies ?
Oui, ça peut. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment intéressée sur cette collaboration avec Olivier, c'est qu'en fait, c'est vrai que moi, en tant que vétérinaire, je pensais qu'une tique, c'était forcément méchant avec plein de pathogènes à l'intérieur. Et en fait, cette étude met en évidence que il n'y a pas que des pathogènes dans les tiques, mais aussi des bactéries qui peuvent effectivement être bénéfiques à la survie de la tique. Et donc, il faut faire très attention sur ce qu'on détecte à l'intérieur de nos tiques, même si ce sont des vecteurs de beaucoup de pathogènes.
Bon, c'est une façon de réhabiliter donc ces tiques mangeuses de sang grâce à cette étude. Laurence Vial et Olivier Durand, merci beaucoup. Merci aux équipes de France Bleu Hérault qui nous ont permis ce duplex aujourd'hui. Bon week-end à vous et Axel, à lundi.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, à quelle vitesse la vie est-elle repartie après la disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années ? Eh bien, selon une étude parue dans la revue Nature, les choses seraient allées très vite. Des paléo-océanographes ont étudié en effet la forme du cratère d'impact de la météorite et en ont déduit que son ouverture sur le golfe du Mexique a permis d'y faire rentrer une eau riche en nutriments. La vie serait donc apparue abondamment quelques temps seulement après le déluge. Régénérer les tissus durs de l'émail des dents, voici la nouvelle prouesse réalisée par une équipe de l'Université de Londres. En utilisant une protéine spécifique, les scientifiques ont été capables de générer un émail dentaire synthétique semblable en tout point en autre. Le matériau ainsi créé pourrait s'avérer très utile pour les dentistes en permettant de traiter des problèmes tels que la sensitivité des dents dont souffre une large partie de la population. La Grande Faucheuse a été particulièrement perverse avec l'un des habitants de l'ancienne Pompéi. Le jour de l'éruption du Vésuve, des archéologues italiens ont retrouvé le squelette d'un homme dont le thorax et la tête avaient été écrasés par un énorme bloc de pierre. Ironie de l'histoire, l'homme dont une des jambes a été cassée avait probablement échappé à la mort une première fois et s'est donc pris une pierre sur la tête en voulant fuir. Pour les amateurs d'humour noir, la photo du squelette malchanceux est disponible sur la page Facebook de La Tête au Carré. Et puis on termine non pas avec une, mais deux cocoricos et deux chercheuses françaises qui sont honorées par le prestigieux prix Kavli. On l'a appris hier, la biochimiste Emmanuelle Charpentier et la généticienne Christine Petit de l'Institut Pasteur seront récompensées à hauteur d'1 million d'euros le 4 septembre prochain pour, je cite, leurs travaux pionniers qui bénéficieront à toute l'humanité.